Bonjour à tous et à toutes. Il est 18h et tout de suite ces premières pages sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Non, c'est pas vrai.
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit.
Qui t'a dit comme t'avais puni?
C'est écrit là.
Voyons, mais... Tu sais lire?
Oui.
Première page, c'est la chronique littéraire pour lecteurs décomplexés. Un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris. Dans ce 12e épisode, le roman fantastique est à l'honneur avec La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Clune. Lorsque Linus met les pieds sur l'île de Marcias pour mener l'enquête, il est loin d'imaginer ce que lui réserve cet orphelinat hors du commun. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le 12e épisode de Première Page, un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Laisse-le encore un peu faire l'enfant.
Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une œuvre doudou. Ce sont ces films, séries, livres qui vous replongent en enfance, dont le potentiel nostalgique reste inégalé. Ce sont ces œuvres sur lesquelles on ne peut s'empêcher de revenir, quel que soit l'âge, pour une petite soirée plaide, un moment de cafard ou un week-end en famille. Vous savez, ces soirées plateau-repas où bon, on n'a pas trop le droit de rester tard, demain il y a école. Mais là, c'est exceptionnel. Si j'associe ces souvenirs à des films ou à certains dessins animés, il m'arrive rarement de le ressentir pour des livres. Et pour cause, je n'ai aucun plaisir à relire. L'effet cocooning doit se faire en one-shot. Mais quand, comme moi, on ne lit pas très vite, la lecture a ça de bien que l'on peut faire durer le plaisir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si par malchance Le Seigneur des Anneaux est votre œuvre fétiche. Est-ce parce que je me lance tout juste dans la lecture de Millennium, dont le potentiel glauque risque de me plomber le mois de février, que je choisis de porter mon esprit sur quelque chose de plus doux, plus enfantin? Sûrement. Mettre en valeur ce type d'ouvrage, et plus précisément ici le genre young adulte, c'est rappeler qu'il n'y a pas de petite littérature. C'est parfois dans les livres que vous sous-estimez, les scénarios les plus simples, que se cachent les plus belles histoires. Lire ce roman, c'est retrouver l'enfance, l'innocence, mettre ses problèmes de côté et introduire un peu de magie dans sa vie. L'épisode du jour est dédié à la maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Clune. Vous l'aurez compris, au même titre que Le Chant d'Achille, j'avais des réticences à lire ce livre qu'à relier dans mon esprit au BookTok. Revenant régulièrement sur la plateforme, je l'avais automatiquement évincé de ma wishlist. C'est une nouvelle fois grâce à mon club de lecture que je découvre finalement cet ouvrage, non sans a priori. S'ajoute à sa classification young adulte une quatrième de couverture particulièrement peu attractive, allant jusqu'à illustrer certains éléments du récit que l'on aurait préféré imaginer par nous-mêmes. Bon. Même si elle n'arrive pas à la hauteur des éditions anglaises originales, la couverture, en revanche, nous transporte assez vite dans l'univers. On y voit, en contre-plongée, un grand manoir perché en haut d'une falaise qui surplombe la mer. La couverture originale, plus complète, offre une esthétique rappelant celle de Roald Dahl, mêlant des registres enfantins colorés à des esthétiques plus sombres, similaires à l'œuvre de Tim Burton. Paru aux éditions De Saxus en 2021, on doit ce livre à Travis John ou T.J. Clune. Né en 1982 à Rosebourg, en Oregon, c'est un romancier et nouvelliste américain de romance et de fantasy. Avant de se lancer dans l'écriture, notre auteur était expert de sinistre pour une compagnie d'assurance. Son expérience n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle du héros de notre histoire. Notamment connu pour mettre régulièrement en scène des personnages LGBTQI+, il évoque souvent la façon dont son expérience en tant que personne queer, asexuelle et neuroatypique a influencé son œuvre. Il publie son premier roman en 2011, mais La maison au milieu de la mer céruléenne est son premier succès. Il fait d'ailleurs partie de la New York Times best-seller list et connaît de nombreuses traductions. Au-delà du désir d'évasion qu'il procure, ce livre est surtout important pour la modernité de son discours, les valeurs qu'il véhicule, offrant une nouvelle vision du genre young adulte, loin des œuvres problématiques qui ont pu bercer notre adolescence. À l'heure des polémiques autour des propos transphobes de J.K. Rowling, le roman d'aujourd'hui fait du bien de par son inclusivité. Si la littérature forme la jeunesse, je mise gros sur notre auteur et sa promesse d'un avenir plus doux. La maison au milieu de la mer céruléenne, ça parle de quoi ? C'est l'histoire de Linus Baker, un homme sans histoire. Métro, boulot, dodo, dans une petite maison qu'il partage avec Calliope, un chat au sale caractère et sa collection de vieux disques. À 40 ans, notre héros est bien installé et rien ne semble pouvoir troubler le calme de son terrier. Mais c'était sans compter le travail et ses obligations. En effet, Linus est agent pour le ministère de la Jeunesse Magique. Son rôle est d'assurer le bien-être de ses enfants extraordinaires, répartis dans les différents orphelinats, supervisés par le gouvernement. On évolue dans un monde où la magie est loin d'être acceptée. Attentif ensemble, le recensement est pour notre bien à tous. Fait partie de ces slogans recouvrant les murs grisâtres de cette ville, dans laquelle la pluie ne semble ne jamais s'arrêter de tomber. Dans cet univers, les sans-pouvoirs dominent. Camouflés aux yeux de tous, les êtres magiques semblent davantage parqués et craints que réellement mis à l'abri. Notre héros, quant à lui, appartient à la première catégorie d'individus. Au cours d'une journée tout à fait banale, ce dernier reçoit au bureau une lettre intrigante. Le voilà convoqué au bureau de ses responsables hiérarchiques, les cadres extrêmement supérieurs. Cette entrevue top secrète est une réelle surprise. En effet, Linus est l'incarnation de la droiture et du sérieux. Bien intégré au système, il ne semble pas réussir à voir le monde plus loin que son large exemplaire de règles et règlements qu'il ne quitte pas, même à la maison. Il est donc missionné pour se rendre dans un orphelinat situé sur l'île de Marcias et ainsi surveiller de près ses 6 pensionnaires, présentés comme particulièrement inquiétants, et leur directeur, M. Parnassus, dont les méthodes commencent à questionner les plus hautes sphères. Notre héros, une valise et son chat sous le bras, se voit donc contraint de quitter son nid douillet. Après un long voyage en train, il découvre l'île, mais surtout la mer, dont le bleu céruléen est tout à fait nouveau pour ce cadre qui n'aime pas se laisser surprendre. Après une traversée en bateau, il rencontre enfin son objet d'étude. 6 enfants, au caractère et au physique et pouvoir tout à fait atypiques et merveilleux. Si Linus apporte avec lui son lot d'idées reçues et un cadre auquel il s'est attaché, il finira malgré tout par découvrir qu'au-delà des règles et du parfaitement ordinaire, peut se cacher un monde riche en émotions et en couleurs et, qui sait, peut-être la place qu'il n'a jamais trouvée. Mais alors, pourquoi ai-je tant aimé ce livre ? Déjà, pour son format. Qui dit livre doudou, dit format tout doux. La maison au milieu de la mer céruléenne n'a pas encore de version poche. L'ouvrage est broché, donc plus grand, comme les chérubes, les Twilight, me rappelant mes premières vraies lectures d'ado. Si le genre young adulte s'adresse selon les collections à un large panel de lecteurs, âgés de 12 à 30 ans, le roman d'aujourd'hui convient tout à fait à un jeune public. La police d'écriture et les interlignes sont grandes, offrant une vision du texte aérée et confortable. Alors oui, sur le papier, ça ne fait pas sérieux. Mais si je dois rappeler une énième fois le mantra de ce podcast, lisez ce qui vous plaît et pas ce qui rendra fiers vos proches ou vos professeurs. Et oui, si le style young adulte n'est pas ce que je préfère, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage pour changer de certains pavés écrits, il faut le dire, en pâte de mouche. Ensuite, pour rester sur le plaisir régressif de cette lecture, je parlerai de l'univers enfantin de l'œuvre. À commencer par une approche tout à fait binaire, même si elle parvient à se nuancer au fil des pages. Livrant un monde fantastique où magie et humanité sont séparées à tout prix, l'auteur offre une vision caricaturale opposant un monde de liberté, d'audace, Un monde coloré, libéré, à une société froide, grise, répondant à des obligations dans lequel le chacun pour soi règne. L'une des critiques que j'ai pu lire sur le roman insistait sur la place centrale prise par la couleur dans l'ouvrage. Cette séparation entre le monde de notre héros et celui de ses petits protégés est incarnée par cette mer d'un bleu céruléen. Arriver sur cette île, c'est comme ouvrir les rideaux, laisser la lumière entrer dans la vie de notre personnage. Ce livre est chaleureux. On a envie de rejoindre Linus dans la salle à manger du manoir et prendre un goûter avec ce petit groupe peu ordinaire. La couleur est partout, sur les habits des enfants et du directeur, dans les forêts et le potager qui composent le domaine. Et même si notre héros continue longtemps de tout voir en noir et blanc, son attachement pour les enfants et ses sentiments naissants pour Monsieur Parnassus ont finalement raison de sa rigidité. Ce qui me permet de rebondir sur un autre point fort de l'ouvrage, notre héros et les personnages qui gravitent autour de lui. Linus est un homme attachant, maladroit, peureux. Ce changement de vie soudain est violent pour ce quarantenaire dont les petites habitudes sont précieuses. À sa manière, il me fait un peu penser à Bilbon, personnage éponyme de l'œuvre de Tolkien. Bon vivant, mais attaché à sa solitude et à la sécurité du foyer. Tout comme lorsque Gandalf vient tirer le jeune hobbit de sa tanière, Linus est réfractaire au changement, et particulièrement critique lors des premières semaines dans cette vaste demeure. Sa transformation, on la doit finalement aux différents individus qui l'entourent, parvenant chacun à leur manière à briser cette solide carapace. Les enfants, dans un premier temps, apportent tous les six une nouvelle couleur au récit et un nouveau regard pour notre héros. Vouivre, gnome, fée, je fais le choix de ne pas vous en dire plus sur ces derniers pour vous laisser découvrir l'univers à votre rythme. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces deux milieux que tout semble opposer s'apprivoiser peu à peu et apprendre à se connaître, se comprendre, s'accepter. Parnassus, le directeur, est également intrigant dans sa conception. Drôle, mystérieux, il entretient un rapport quasi paternel avec cette petite troupe, valorisant chacun d'entre eux, leurs rêves, leurs projets d'avenir. Je pense notamment à Chauncey, sorte d'extraterrestre vert transparent à tentacules, dont le rêve le plus cher est de devenir groom. L'orphelinat a leur vocation à ce que les enfants se sentent à leur place et notre directeur met tout à disposition pour qu'elle puisse s'épanouir, s'émanciper au mieux. Il incarne le dernier rempart face à l'animosité du monde extérieur. Car oui, si Linus est missionné pour le soi-disant bien-être de ses enfants, l'auteur met en lumière assez tôt l'inquiétude grandissante de ce monde non magique qui tente de garder la main mise sur ce petit coin de paradis où chacun peut devenir ce qu'il veut. Un espace de découverte, de liberté. Une bulle solidaire risquant à tout moment d'éclater. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Tomorrow is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. Journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. Tomorrow is another. C'était un extrait de Run Boy Run de Woodkid. Vous écoutez Première Page, une chronique littéraire pour lecteurs décomplexés sur Radio Campus Paris 93.9 FM. L'épisode du jour est dédié à la maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Clune. Que serait un livre doudou sans un peu de magie? Car c'est ce qu'on demande à ce genre d'ouvrage, s'échapper du quotidien. Et oui, ici, le pari est réussi. L'univers sur cette île est féerique. Dans ce grand manoir, aucun jour ne se ressemble et la vie de Linus est rythmée de nouvelles surprises, plus ou moins appréciées. Mais au-delà des enchantements, le monde n'est pas tout rose. Le lieu reste un orphelinat et ses jeunes habitants en quête d'identité possèdent chacun leur lot de traumas et d'importants questionnements sur leur famille éloignée ou disparue. Si Linus devait initialement enquêter sur l'établissement, ses découvertes l'emmènent au-delà des murs de cette grande maison, mettant peu à peu au jour une politique oppressive et des enfants en difficile reconstruction. Et si la magie ne résout pas tout, Parnassus se donne la mission de rendre la vie de ses protégés plus douce. Les semaines, les mois sont rythmés de sorties, d'activités variées, encourageant, chérissant ces enfants dont plus personne ne veut. L'auteur nous livre des scènes touchantes de par leur bienveillance. D'ailleurs, tous ne s'intègrent pas de la même manière et n'occupent pas la même place au manoir, offrant une diversité de rôles et des rapports sociaux complexes et variés. J'ai d'ailleurs été agréablement surprise de lire sur la première page une prévention concernant différents trigger warnings, notamment pour harcèlement, grossophobie, anxiété. Des avertissements trop peu souvent indiqués rappelant le pouvoir de dénonciation de certaines œuvres et leur impact pédagogique. En réalité, l'histoire de ces enfants fait directement écho au vécu de notre auteur et à son combat pour la cause queer. Si le personnage de Linus est une référence évidente à ce dernier, une nouvelle grille de lecture s'ouvre à nous, faisant de cet ouvrage une ode à la liberté d'être qui on est, de s'assumer en tant que tel, et ce malgré les obstacles, les violences, le mépris. L'opposition entre le monde magique et non magique nourrit cette double lecture, mettant en lumière les oppressions et ce combat du quotidien pour la liberté d'exister. D'ailleurs, au-delà de cette question, l'auteur parvient à nous rappeler que la magie dépasse les tours de passe-passe et autres caractéristiques fantastiques, se cachant parfois dans les petites choses qui rendent ce monde plus beau. L'amour, l'amitié, l'acceptation de l'autre, les différences et leur richesse. Linus est plongé plus ou moins malgré lui dans ce combat de l'instant. Sensible à la solidarité sans faille qui relie tous ces êtres entre eux, il finit lui aussi par ouvrir les yeux, participant à sa manière à recolorer peu à peu ce monde et ses habitants. Pour aller plus loin, je recommande Miss Peregrine et les enfants particuliers, livre de Ransom Riggs paru en 2011, et La fille de la mer, bande dessinée de Molly Knox Ostertag, paru en 2022. C'était le 12e épisode de Première Page, et pour cause de vacances, le prochain épisode ne sortira pas dans 2 semaines, mais exceptionnellement dans 1 mois. Rendez-vous le 24 mars donc, à 18h, pour une prochaine lecture sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.